Alors pour ceux qui m'ont suivi sur mon compte Facebook cette semaine, vous savez que j'étais en Tunisie, donc dans le Maghreb, pour une série de rencontres, hein, qui étaient des rencontres privées. Et puis lors d'une promenade et d'une visite, je me suis laissé prendre par le chapeau qu'on m'a proposé, qui est un chapeau local, qui s'appelle une chéchia. Et il y a un frère de notre église qui, sur Facebook, a commenté et a dit « Manu, où sont passés tes cheveux ?» Et je lui ai dit « Je les éteins en blond. » Ça se voit d'ailleurs. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce séjour, sinon que c'était un séjour très intéressant. Je vous donnerai une autre fois plus de nouvelles. Je vous propose de rentrer directement dans le vif de notre message pour ce matin. Et vendredi soir, lorsque j'étais dans le train qui me ramenait à Strasbourg et que je pensais un petit peu au message que j'avais à préparer pour dimanche, eh bien, je suis tombé sur un article de Jacques Attali, qui est un écrivain, économiste et haut fonctionnaire français. Certains parmi vous, j'imagine que vous avez déjà lu des livres de cet homme. Et le titre de l'article était « 2016 ne peut être que l'année des bonnes surprises ». Parce que, disait-il, le pire du pire est très vraisemblable. Et tous les ans, Jacques Attali, généralement à la période de fin décembre, fait des prédictions et il suivait une dizaine de prédictions apocalyptique pour 2016, en voici quelques-unes, juste une petite sélection donc de Jacques Attali. Premièrement, de nouveaux attentats terroristes d'une ampleur défiant l'imagination sont attendus de façon réaliste dans tous les pays, y compris le nôtre. Deuxièmement, les conflits en cours en Syrie, Irak, Libye, Yémen ou Ukraine vont probablement s'aggraver. De nouveaux États vont sans doute s'effondrer, en particulier en Afrique, sur le modèle de la désintégration de la Somalie ou de celle du Soudan. Et puis, autre prédiction, une crise financière majeure devrait éclater à l'échelle mondiale, comparable à celle de 2008, non plus cette fois à partir des crédits spéculatifs accordés aux ménages, mais à cause de ceux qui concernent les entreprises. Et puis, dernière prédiction que j'ai sélectionnée, la France, outre les catastrophes précédentes, risque de voir en 2016 une aggravation du chômage, un débat politique en vue de la présidentielle vide de contenu, ça c'est certain, c'est mon commentaire, une rage croissante contre les élites, des départs accrus des jeunes vers la Syrie ou vers Londres, ça c'est moins encourageant. Alors tout ça, c'est pas très réjouissant, moi je ne suis pas voyant, je ne suis pas Madame Tessier, je ne suis pas non plus futurologue. Vous savez, les futurologues, ce sont ces élites, ces intellectuels qui, au vu de ce qui s'est passé dans notre monde, au vu de ce qui se passe actuellement, font des prédictions pour les mois et pour les années à venir, afin d'essayer de voir quels sont les nouveaux modèles qu'il faut envisager, afin d'essayer de préparer cet avenir qui vient. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de fortes chances que certaines choses que nous a dit Jacques Attali se révèlent vraies, tout simplement, parce qu'il y a un fort taux de probabilité. Du reste, ce sont aussi des choses que nous voyons actuellement en cours. Même si le pire du pire est très vraisemblable, eh bien, moi, je crois que l'année 2016 peut devenir et sera pour celui ou celle qui fait confiance à Dieu, une année de bonnes surprises. Une année qui peut être une année très positive, une année où, comme nous l'avons encore entendu ce matin, ne serait-ce qu'au travers du verset qu'Éric nous a lu, avec lequel il nous a accueillis, au travers du témoignage aussi de René qui a été proposé tout à l'heure, une année où la grâce de Dieu va pouvoir encore se manifester dans la vie des uns et des autres. Et pour étayer cela, je ne vais pas me baser sur les prédictions de Madame Tessier, ni sur les prédictions de Jacques Attali, mais je vais me baser plutôt sur la parole de Dieu, et plus précisément sur le texte du jour. Vous savez qu'actuellement, nous suivons toute une série d'études dans l'Ancien Testament, et le texte qui est proposé pour aujourd'hui, eh bien, se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, qui fait partie de nos messages à thème, au chapitre 61, les versets 1 à 11. Un passage extraordinaire, un passage qui nous parle de grâce, un passage qui nous parle de faveur, un passage qui nous parle d'amour et que nous allons un petit peu décortiquer ensemble ce matin pour voir ce que le Seigneur a à nous dire. Ésaïe donc 61, et voici ce qu'il nous est dit et nous allons lire tout ce verset.
L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction ou m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Verset 4. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Verset 8. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils ont une lignée bénie de l'Éternel. Et le prophète conclut ainsi cette description fabuleuse, « Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. » Et le peuple de Dieu répondit « Amen ». Alors, vous savez, pour ceux qui fréquentent un petit peu les Écritures, et en particulier qui connaissent ce passage d'Ésaïe 61, ce passage est repris dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 14. Alors que Jésus vient juste d'être baptisé, alors qu'il vient d'être tenté, alors qu'il est en train de commencer à prêcher et qu'il rencontre du succès et qu'on commence un petit peu à parler de lui partout, il nous est dit que Jésus va se rendre dans sa ville natale, là où il est né, à Nazareth, et qu'il va se rendre à la synagogue un samedi, comme c'était le cas des Juifs, et il y avait la possibilité pour ceux qui étaient présents de lire, et apparemment la lecture du jour se trouvait dans le livre du prophète Ésaïe, et plus précisément au chapitre 61, et donc Jésus va lire le début de ce chapitre, et il termine par ces paroles « Aujourd'hui, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité ». Et pour ceux qui connaissent le texte, cette parole va susciter de l'admiration, de l'incompréhension et même une parole qui va pousser certains des contemporains de Jésus à vouloir le tuer parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et ce qu'il est en train de faire. Alors avant de s'appliquer au Christ, et je vous en dirai plus tout à l'heure un petit peu par rapport au Christ et comment cette parole s'applique à lui et à nous aussi, cette parole concerne d'abord ce qui reste du peuple d'Israël. Peuple d'Israël qui, je vous le rappelle, est à cette époque-là en exil à Babylone. Et le message du prophète, donc d'Ésaïe, vise d'abord des esclaves, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des enfants qui ont été blessés, qui sont découragés, qui ont tout perdu, qui sont opprimés, des personnes qui ont tout perdu. Un peu comme cette fille de 7 ans dont je lisais l'histoire hier, Fatima, qui est arrivée dans un camp de réfugiés début janvier. Elle habitait une belle maison avec son père, sa mère et son frère. Et un jour, son père et son frère sont partis chercher du pain et ils ne sont jamais rentrés. Et plusieurs jours après, quelqu'un vient, frappe à la porte et leur dit qu'il y a une bombe qui a explosé dans la rue et qui les a tués. Et le jour d'après, cette jeune fille avec sa mère ont décidé de fuir pour se rendre dans un camp de réfugiés. La jeune Fatima a bien réfléchi aux endroits où elle voulait passer pour être le plus sécurisée. Et lorsqu'ils sont partis, sont partis toutes les deux. Il n'y en a qu'une qui est arrivée parce qu'il y a une mine qui a explosé, tuant sa mère et arrachant un bras à cette jeune fille qui a pu être sauvée in extremis par un médecin qui était présent. Alors cette histoire bien triste, qui est l'histoire de bien de ces migrants, de ces réfugiés qui viennent actuellement en Europe, ressemble en partie à ce que bien des exilés avaient vécu à cette période-là. Il y avait parmi eux des couples, il y avait des familles, il y avait des veuves, il y avait des enfants endeuillés, il y avait des personnes qui avaient été humiliées, brisées, qui se retrouvaient prisonniers dans des cachots, l'obscurité pour certains, d'ailleurs le texte en parle. Alors bien sûr, il y a une différence avec ce que les exilés d'aujourd'hui vivent, parce que pour Israël, nous le savons, que l'exil est une conséquence de l'abandon de son Dieu. Nous savons aussi qu'à maintes reprises et de manière très patiente et avec beaucoup de patience et de dextérité et d'amour et de sagesse, Dieu a envoyé des prophètes à son peuple pour que celui-ci revienne à lui, mais à un moment donné, le couperet est tombé, le jugement est arrivé, ce qui est différent, bien entendu, et je ne serai pas là pour dire pour quelles raisons, en tout cas spirituelles, ce que nous voyons dans notre monde actuellement se passe. Avant d'être un passage qui s'applique à Jésus, le message d'Ésaïe s'adresse d'abord à ses exilés. Et le message qu'Ésaïe adresse, et c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer ce matin, est un message qui est positif. C'est un message qui est lumineux, c'est frais, c'est rempli de l'esprit, puisqu'il nous est dit que le prophète a spécialement été oint pour cela. C'est un message plein d'espérance dont parle le prophète, et ce message se concentre ou pourrait être résumé en une phrase que nous retrouvons au début de ce chapitre 61, à savoir que le Seigneur l'a spécialement équipé et oint. Pourquoi ? Pour annoncer une année de grâce, ou alors pour annoncer la faveur de l'Éternel. Alors de quoi s'agit-il ? Quelle est cette grâce, ou quelle est cette année de grâce à laquelle Ésaïe, ici, ou plutôt le texte biblique, fait référence ? Dans la Torah qui pour le juif comprend les 5 premiers livres de la Bible, pour nous la Torah comprend souvent l'Ancien Testament, mais pour le juif ça comprend essentiellement les 5 premiers livres de la Bible, et plus particulièrement ce qu'on appelle la loi mosaïque, c'est-à-dire les 10 commandements et tous les commandements et toutes les prescriptions que Dieu a données directement à Moïse pour qu'il les transmette à son peuple. Dans la Torah, pour éviter qu'il n'y ait trop d'inégalités sociales, Dieu avait mis entre autres en place 2 institutions. Et la première institution, c'est ce qu'on appelait l'année sabbatique. Et cette disposition prévoyait qu'un esclave israélite ne pouvait pas être retenu plus que 6 ans. Il pouvait, s'il avait des problèmes financiers, s'il avait besoin de rembourser un crédit, etc., se mettre au service d'un autre Israélite, parfois même avec toute sa famille, mais il pouvait faire cela que pendant 6 ans, et la 7e année, il devait être libéré. Vous trouvez cela si ça vous intéresse, et si vous prenez des notes dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, les versets 2 et suivants. Et cette année était marquée par un ensemble de dispositions. Bien sûr, il y avait la libération des esclaves israélites, mais il y avait aussi un repos de la terre et un abandon des dettes qui étaient également présents apparemment. Et fait intéressant, ce cycle de 7 s'inspire de la semaine de 7 jours qui termine par le sabbat. Et c'est pour ça qu'on va parler de sabbat ou d'année sabbatique, justement, qui fait référence à ce cycle de 7 jours et au fait que dans la pensée de Dieu, il est important de temps en temps, non seulement que nous puissions souffler, mais aussi de laisser souffler les gens et respirer. La seconde institution comprise dans le mot « année de grâce » et à laquelle fait référence apparemment Ésaïe ici, c'est ce que la Torah appelle l'année du jubilé. Et le nom de cette année vient du fait que c'était une année qui était annoncée par, au son de la corne de bélier, qui se dit en hébreu Yobel, et qui est devenue aussi par la suite jubilé, tout simplement, c'est également la même racine. Et cette année était une année qui, elle, devait avoir lieu tous les 50 ans. Vous trouvez cela, par exemple, dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, et au verset 10, où il nous est dit ceci, « Vous déclarerez sainte la 50e année, et vous proclamerez dans le pays la libération pour tous les habitants. » Et le texte se termine ainsi, « Ce sera le jubilé. » Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que dans les prescriptions de cette année, il était prévu que les terres restaient en jachère, chacun normalement rentrait dans son patrimoine, c'est-à-dire que les champs revenaient aux propriétaires primitifs, ainsi que certaines maisons, sauf les maisons qui étaient dans les villes, où il y avait certaines dispositions particulières. Tout cela était bien encadré et du reste aussi assez compliqué, d'après certains historiens. Il nous est dit aussi que les débiteurs défaillants et les esclaves israélites étaient libérés. Alors j'imagine que certains devaient jubiler et d'autres jubiler moins, hein, n'est-ce pas ? Surtout si vous étiez dans le cycle où vous arriviez à la 45-46e année et que vous saviez qu'il y a la 50e année qui arrive bientôt et que tout ça, ça va être terminé et que ça sera différent. Et moi je propose qu'on envoie ça à Jacques Attali pour 2016, hein, et puis à l'ensemble du monde, hein, une année de jubilé. Je suis pas sûr que ça aidera, hein. Ça risque de créer un petit peu plus de bazar qu'il y en a déjà. Ce que nous savons aussi, c'est que l'application pratique de cette disposition ne devait pas être évidente. Le jubilé, si vous voulez, proposait un idéal de justice et d'égalité sociale. Alors ça, c'est ce que la Torah dit. Ça fait partie des prescriptions que Dieu avait données à son peuple. En réalité, est-ce que les choses se sont passées ainsi ? Là, c'est autre chose. Si vous lisez l'Ancien Testament, et particulièrement si vous regardez les textes historiques, vous allez voir qu'apparemment le peuple d'Israël a rarement observé que ce soit l'année sabbatique ou l'année du jubilé. Certains vont vous dire qu'Israël l'a observé quand il était dans une période faste, et quand vous êtes dans une période faste, eh bien c'est pas difficile, hein, c'est relativement facile. Maintenant, quand c'est beaucoup plus difficile, c'est autre chose. Certains historiens vont même à dire que c'était marqué, mais qu'en réalité, ils n'ont jamais fait. Il en est fait référence dans le livre de Jérémie, je crois, au chapitre 36, où il est question justement de cette année sabbatique ou du jubilé. Mais immédiatement après avoir pris cette décision, le peuple va faire marche arrière. En tout cas, ça fait partie des prescriptions et de la volonté que Dieu avait normalement prévue à l'égard de son peuple pour avoir plus d'égalité et de justice. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est une petite parenthèse que je fais ici, que les lois que Dieu nous a données dans l'Ancien Testament sont des lois qui sont extraordinaires. Et si on arrivait à retirer un petit peu la quintessence de ces lois et à essayer de les appliquer ou de comprendre la sagesse qui a conduit Dieu à édicter ce genre de loi, il y a des choses qui iraient nettement mieux dans nos sociétés. Est-ce qu'il y avait derrière cela une pensée, une stratégie de Dieu pour que les gens puissent bien et mieux vivre ensemble ? Le message qu'Ésaïe reçoit et annonce aux exilés est donc une bonne nouvelle. Surtout que c'est Dieu lui-même qui décrète cette année de grâce, ce jubilé. Remarquez quelque chose d'important par rapport à cette année. Il nous est dit d'une part, une année de grâce. Et qu'est-ce qui suit ? Qui me le dit ? Un jour de vengeance. Merci Raymond. Voyez un petit peu le paradoxe ? D'une part, il nous est dit une année de grâce, et d'autre part, il nous est dit un jour de vengeance. Ça nous fait penser un petit peu aux 10 commandements, à savoir que la malédiction s'étend sur 3 ou 4 générations, et la bénédiction, elle est pour 1000 générations. Au travers de cela, le prophète est en train de dire quoi ? Au travers de cela, le prophète est en train de dire que le châtiment est rapide. Le châtiment est soudain, le châtiment est éphémère. Et si on considère le châtiment à l'ensemble de l'histoire, que ce soit l'histoire d'Israël ou l'histoire du monde ou notre propre histoire, le châtiment finalement c'est 3 fois rien. C'est une peccadille, c'est un petit quelque chose dans l'histoire du salut. Le psaume 30, verset 6 nous dit que sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et voyez-vous, les exilés n'avaient pas besoin d'entendre parler de colère. Les exilés n'avaient pas besoin d'entendre parler de jugement. Les prophètes étaient venus, Ésaïe aussi, et leur ont parlé de colère, leur ont parlé de jugement. Et ce qu'ils vivaient, du reste, leur rappelaient tous les jours, plutôt la condition dans laquelle ils se trouvaient, leur rappelaient tous les jours le fait qu'ils avaient désobéi à Dieu et par conséquent, on n'avait pas besoin d'en rajouter une couche. Maintenant, c'est un temps nouveau qui était venu pour eux. Maintenant, c'était un moment nouveau dans l'histoire du salut que Dieu leur proposait. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes affligés, découragés, abattus, déçus de nous-mêmes aussi parfois, eh bien nous avons plus besoin d'entendre eh bien quelque chose de positif et non pas une parole de jugement, de châtiment. Nous avons nous aussi besoin d'entendre le message d'Ésaïe 61. Et Ésaïe leur dit, c'est maintenant le temps de la faveur. Il leur dit, maintenant c'est le temps de la consolation, maintenant c'est le temps de la bénédiction, maintenant c'est le temps où ce que Dieu a en réserve pour vous, ce que Dieu a en réserve pour vous va maintenant s'accomplir. Et les images qu'il utilise pour confirmer cela, pour enfoncer le clou un petit peu, sont des images qui d'un point de vue biblique sont fortes, des images qui ne nous parlent pas forcément, mais qui ont parlé aux exilés. Et il va utiliser entre autres deux images. La première image qu'il utilise, c'est l'image du manteau. Et la seconde image qu'il utilise pour parler de cette faveur de Dieu, c'est l'huile dont il est question. Et tous deux, que ce soit le manteau ou l'huile, symbolisent la joie. Le manteau fait référence à un manteau qui était mis certainement pour des cérémonies, pour des moments qui étaient positifs. Et l'huile dont il est question ici, c'était une huile qui était une huile aromatisée. Une huile aromatique qui avait été traitée avec des herbes et des onguents et tout ce que vous voulez. Et c'était une huile qui était utilisée lors des banquets. Et quand on se rendait à un banquet, eh bien, tous les invités recevaient un peu sur leur tête, et vous avez plusieurs références dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on voit cela, eh bien, ils recevaient de cette huile sur eux. Et cette huile symbolisait quoi? Cette huile représentait la joie. La joie qu'il y avait à participer à une fête, parce que Dieu aime les fêtes. Et la joie aussi parce que ça symbolisait que la faveur divine était sur tous les convives. La faveur divine était sur ces hommes et sur ces femmes. Et à celui qui est abattu, découragé, fatigué, lassé, déçu peut-être de lui-même, Dieu dépose sur lui cette huile de joie pour restaurer, pour consoler, pour les relever. Et remarquez encore ceci, ils n'ont rien à faire. Les exilés n'avaient rien à faire. Ils avaient simplement à recevoir ce que Ésaïe allait leur transmettre comme message de la part de Dieu. Et nous-mêmes, lorsque nous recevons cela du Seigneur, eh bien, Dieu nous le donne tout simplement. Et quand Dieu nous donne, au travers de la communion avec son esprit, au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers aussi de la communion parfois les uns avec les autres, eh bien, le Seigneur déverse aussi et pose sur nous un manteau. Un manteau qui est un manteau de joie, une huile qui est une huile de joie. Pourquoi ? Pour remplir notre cœur. Parce que si nous voulons bénir les autres et si nous voulons faire la différence dans la vie des autres et si nous voulons consoler ceux qui sont opprimés, ceux qui sont découragés, et tant de personnes dans notre société souffrent, tant de personnes sont découragées, nous avons nous-mêmes d'abord besoin de recevoir cette huile de joie, de recevoir ce manteau que le Seigneur vient et qu'il pose sur nous, pour que nous-mêmes, au travers des paroles que nous allons pouvoir adresser aux autres, au travers simplement de notre présence, nous allons pouvoir leur communiquer une bénédiction, nous allons pouvoir leur communiquer la joie du Seigneur, nous allons pouvoir apporter quelque chose qui va faire une différence dans leur vie. Amen. Et c'est de cela dont le prophète Ésaïe est en train de parler ici. Et ce message de grâce, ce message d'amour dont il parle ici se réalise pleinement dans la personne du Christ. Et je reviens au Christ dont je parlais tout à l'heure en introduction. C'est en lui que ces merveilleuses paroles d'Ésaïe trouvent tout leur accomplissement parce que Jésus est le Messie. Il est loin. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu, eh bien vous savez que le terme « Messie » signifie littéralement « celui qui est loin », « celui qui a reçu de Dieu l'onction ». Il y a là quelque chose de fort, parce que cela suppose que le choix vient de Dieu. Quand il y avait un prêtre, quand il y avait un roi, quand il y avait un prophète dans l'Ancien Testament qui était choisi, ce n'était pas le peuple qui le choisissait. Ce n'est pas le peuple qui, avec une élection, disait « nous voulons celui-ci » ou « nous voulons celui-là ». C'est prioritairement, pardon, Dieu qui posait son regard et qui choisissait la personne. Et même lorsque le peuple dira « eh bien, nous voulons telle personne », il y aura d'abord l'appel de Dieu qui est préalable. Nous le voyons par exemple avec David. Et quand l'huile était mise sur la tête d'une personne, cette personne recevait alors de la part de Dieu ce qu'on appelle l'onction. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, descendait sur sa vie. Et à partir de ce moment-là, cette personne était revêtue de l'autorité, de la puissance de Dieu. Et ce qu'il faisait normalement, il agissait au nom de Dieu. Et bien que ce soit le prêtre, que ce soit le prophète, ou alors que ce soit pour le roi, tout cela se retrouve désormais concentré sur la personne du Christ. Et si vous lisez attentivement le texte de Luc au chapitre 4, qui fait référence justement à cette citation d'Ésaïe, vous allez voir que dans Luc 4, à plusieurs reprises, il nous est dit que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Chaque fois, avant d'expliquer ce que Jésus va faire ou Jésus va dire, il nous est dit par exemple que lorsque Jésus est sorti du Jourdain, qu'il a été baptisé, il nous est dit qu'il sort, qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. Ensuite, quand il est tenté par le diable pendant 40 jours au désert, il nous est dit qu'il ressort de ce moment-là, non pas maigre, fatigué ou découragé, mais il ressort de ce moment-là revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il avait besoin de cela pour consoler, pour libérer ceux qui étaient affligés. Et de la même manière, nous aussi, si on veut apporter quelque chose aux autres, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être revêtus aussi de cette puissance. Et le Christ, et le texte biblique le souligne à plusieurs reprises, en tout cas pour le Christ, qui au travers de sa vie, de son ministère, accomplit le texte d'Ésaïe et inaugure des temps nouveaux. Désormais, c'est le temps de la grâce, c'est le temps du salut. Et les biens que Jésus offre ne sont pas simplement des biens spirituels, parce que le salut que Jésus propose est un salut complet. Et d'ailleurs, la suite de l'évangile le montre, puisque Jésus non seulement annonce l'évangile, mais Jésus libère les captifs, c'est-à-dire ceux qui sont retenus par l'ennemi. Jésus guérit les malades. Jésus console ceux qui sont découragés. Le salut inaugure au travers de la personne du Christ, ou plutôt Dieu inaugure au travers de la personne du Christ le salut, une nouvelle ère. Remarquez encore quelque chose d'intéressant à propos des paroles de Jésus qui reprend Ésaïe 61. Il s'arrête à la fin du verset 2. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais c'est très intéressant. Jésus cite le début d'Ésaïe, versets 1 et 2, et il ne va pas jusqu'à la fin du verset 2. Il s'arrête, le Seigneur m'a oint, pour annoncer libération, etc., pour déclarer une année de grâce, et il ne parle pas du jugement. Déjà, Ésaïe soulignait, comme je disais tout à l'heure, l'écart entre un jour et une année. Et Jésus, lui, de manière très étonnante, ne mentionne absolument pas le jugement. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Un bon point. On notera ça dans les archives de l'Église. En effet, le Christ n'est pas venu pour juger ni pour condamner, il est venu pour sauver. De la même manière, on nous dit tout à l'heure que les exilés n'avaient pas besoin de jugement, notre monde non plus n'a pas besoin de jugement. Moi, je suis parfois scotché, pour ne pas dire estomaqué, déçu, parfois même en colère, quand je vois certains prédicateurs chrétiens, qu'ils soient français, suisses, belges, américains ou que sais-je, qui sont là et qui sont tout le temps en train de fustiger, de tirer sur notre monde. C'est des gens qui sont tout le temps en train de chercher les machins, qui disent « il y a ceci qui ne va pas, il y a cela qui ne va pas, le jugement va venir, le jugement va tomber », comme s'ils étaient heureux que le jugement arrive. Et ce faisant, ils oublient totalement que nous sommes dans l'année du jubilé. L'année du jubilé qui commence avec Jésus, qui durera jusqu'à son retour, le jugement viendra un jour. Mais comparé au temps de grâce, le jugement sera éphémère. Il sera juste, mais il sera éphémère. Et de la même manière que le Christ n'est pas venu pour juger, il ne nous envoie pas pour juger. Il nous envoie pour annoncer une bonne nouvelle. que ce soit à ceux qui sont affligés et qui ne connaissent pas le Christ, aussi bien à ceux qui connaissent aussi déjà cette bonne nouvelle. Nous devons dire aux gens comme Jésus, comme Ésaïe, et comme aux exilés, eh bien, aux pauvres, aux bien portants, eh bien, que le Christ est là, que Dieu est présent, que Dieu est à l'œuvre et qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir que le prophète Ésaïe promet au peuple, eh bien, c'est l'année de grâce qui est en marche, comme je l'ai expliqué. Année de grâce qui va se manifester dans un retournement spectaculaire de la situation des exilés. Je termine courtement avec cela. Et c'est ce dont il est question dans les versets 5 à 9. Dieu promet à ceux qui sont en exil quatre choses. Quatre choses qui, au moment où les exilés les reçoivent, d'abord il y a Ésaïe qui reçoit la parole, ensuite il y a Ésaïe qui va dire ça aux exilés, eh bien au moment où ils vont entendre cela, c'était quatre choses qui étaient totalement impensables. L'année du jubilé, c'était impensable, mais les quatre choses que Ésaïe décrit dans les versets 5 à 9 étaient des choses totalement impossibles d'un point de vue humain au moment où ces exilés reçoivent cette parole. Mais c'est comme ça que fonctionne la parole prophétique. Quatre choses. D'abord, il leur promet le triomphe sur tous les autres peuples. Vous imaginez, vous, une nation qui est à terre, une nation qui a tout perdu, des hommes et des femmes qui ont vu leur maison, le patrimoine, ce qu'ils ont bâti pendant des dizaines d'années, ce qu'ils ont amassé pour certains pendant des siècles, ça a été rasé. Et le texte dit, eh bien, vous aurez le triomphe sur les autres peuples. Le gars qui me dit ça, je vais lui dire, mais tu te moques de moi, quoi, hein, pour être poli. Et pourtant, c'est ce que le texte biblique dit. Il y a des étrangers qui vont venir. Il y a des étrangers qui vont s'occuper de vos troupeaux. Vous n'aurez même pas besoin de vous en occuper. Vous allez les payer, c'est eux qui vont faire le job. C'est eux qui vont labourer. C'est eux qui vont cultiver. Pourquoi ? Parce que l'année de grâce a été décrétée. Et parce que quand Dieu dit quelque chose de sa bouche au travers de ses saints prophètes, eh bien la chose se réalise. Deuxième chose dont il est question ici, il promet à Israël de rentrer à nouveau pleinement dans sa vocation. Et Israël a perdu sa vocation à cause de son péché, à cause de sa désobéissance. Israël s'est retrouvé misérable. Alors qu'ils étaient destinés à quoi ? La vocation d'Israël, c'est quoi ? C'est Exode 19, verset 6. Lorsque du haut de la montagne, Dieu va s'adresser à Moïse, à son peuple, qu'il y a la gloire de Dieu qui est là, Dieu dira, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Vous serez une nation sainte. Vous n'allez plus pas vous vautrer dans le péché comme les nations. Vous serez pour moi des prêtres. Et être un prêtre, ça voulait dire deux choses pour Israël. D'abord, ça signifie que pour les autres peuples, ils allaient être un témoignage de la grandeur et de la puissance de Dieu. Comme nous sommes aussi appelés à être un témoignage pour ce monde. Ça, c'est notre vocation. Et la deuxième chose, être prêtre, c'était servir Dieu. Comme nous le faisons ce matin. Mais avec encore plus de foi, d'énergie et d'amour tous les jours pour lui rendre un culte et pour nous lui dire que nous l'aimons. Parce que Dieu n'est pas comme les autres rois des nations païennes qui voulaient simplement avoir des serviteurs. Dieu veut avoir des personnes qui l'aiment, qui le servent, qui parlent de lui, qui manifestent son caractère et son amour. Et puis troisièmement, il promet un double honneur ou une portion redoublée en fonction de la traduction que vous avez. À son peuple ou un patrimoine double. Et cette portion double fait référence à un passage de Deutéronome au chapitre 21, verset 17. Deutéronome 21, 17, où il nous est dit que le droit d'aînesse confère une double part de l'héritage paternel et parfois même plus. Est-ce qu'il y a des aînés parmi nous ce matin ? Levez la main, ceux qui sont des aînés. Voilà, il y en a quelques-uns, hein ? Eh bien, vous allez voir vos parents, si c'est encore possible, et vous allez leur dire, j'ai le droit à une double part. Je ne sais pas s'ils vont être contents. Hein. Ça risque d'être un autre problème. Moi aussi, je suis l'aîné, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais Israël, puisque Israël est le bien-aimé de Dieu, et puisque Israël est appelé dans l'Ancien Testament aussi le fils aîné, comparé à Sion, hein, le fils aîné, eh bien Israël, parce qu'il a été choisi par Dieu, parce qu'il était l'aîné, avait le droit à une double part. Et le prophète est en train de leur dire ici, eh bien, Israël, en tant qu'aîné, va recevoir une double part de bien. Vous imaginez, ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Il n'est pas en train de leur dire, vous allez recevoir ce que vous avez avant. Non, il est en train de leur dire, vous allez recevoir le double de ce que vous aviez avant. Ça, c'est les calculs du Seigneur. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est ce qu'il a dit. Et si on regarde le peuple d'Israël dans l'histoire, on sait que d'un point de vue financier et du business, jusqu'à aujourd'hui, ils se sont toujours bien débrouillés et il y a quelque chose de particulier. Est-ce lié aux bénédictions et aux paroles que le Seigneur a prononcées ? C'est possible, en tout cas, en partie, voire même en grande partie. Et puis quatrièmement, il promet au verset 9 que la postérité sera bénie par l'Éternel. Et pour des exilés, pour des personnes qui avaient abandonné tout espoir, ils avaient besoin d'entendre cela. Parce qu'en entendant que la postérité sera bénie par l'Éternel, ça faisait référence pour ces Juifs, pour ces Israélites, ça faisait référence à quoi ? Ça faisait référence à la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et quand vous avez tout perdu et que vous vous retrouvez avec zéro, vous vous posez la question, mais est-ce que je suis encore béni ? Est-ce que ce n'est pas la malédiction ou la poisse qui s'abat sur ma vie ? Et dans pareille situation, ils avaient besoin d'entendre le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. L'alliance qu'il a conclue avec vos pères, vos descendants, reste valable et elle est pour vous encore aujourd'hui. Et ces quatre choses font partie de la grâce de Dieu pour nous. Et sont aussi valables pour nous, dans une certaine mesure. Dieu nous promet de triompher sur nos ennemis, que ce soit le péché, que ce soit l'ennemi aussi qui cherche à nous condamner, à nous déstabiliser, que ce soit les circonstances de la vie qui parfois se mettent aussi contre nous. Il promet aussi de faire de nous des prêtres pour le servir, pour être un témoignage pour les autres. Ça, c'est l'héritage que Dieu nous donne. Et cet héritage, eh bien, nous ne voulons pas que le mal, que le péché, que les autres nous le volent, que le diable nous le reprenne. Cet héritage, eh bien, nous voulons le vivre parce que le Seigneur nous l'a donné. Et puis, il nous promet aussi une double portion. C'est-à-dire que Dieu promet de prendre soin de nous d'une manière matérielle, concrète sur nos vies. Sans parler d'évangile de la prospérité, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu prend soin d'eux, il les bénit. C'est ce qu'on appelle tout simplement, eh bien, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur notre vie. Nous n'avons rien à faire pour mériter cela. Tout ça, ça vient de Dieu. C'est lui qui inaugure cette année de grâce dans la personne du Christ. Et remarquez simplement encore une petite chose. Dieu lui-même s'engage à réaliser ses promesses. Le verset 8 nous dit quoi ? Le verset 8, c'est Dieu qui parle et qui prend la parole et qui dit, au travers de la bouche du prophète, « Je conclurai une alliance éternelle ». Ça veut dire que toutes les promesses qui sont dites avant qu'ils sont proposées, Dieu s'engage et conclut cette alliance. Et Dieu conclut cette alliance au travers de la personne du Christ, qui il y a 2000 ans est venu et mort sur la croix, a versé son sang, comme nous nous en sommes souvenus, au travers de la scène que nous avons prise ensemble tout à l'heure. C'est là que Dieu a scellé ses promesses. Et c'est pour ça que ces promesses sont vraies et sont pour nous aujourd'hui et ce matin. Deux réactions sont possibles, et je conclus avec ces deux réactions. Soit rentrer dans cette alliance, et si ce n'est pas encore fait, eh bien moi je vous encourage ce matin à sortir de l'exil, à sortir des ornières dans lesquelles vous êtes tombés, à sortir peut-être de la tristesse, à sortir du péché dans lequel vous êtes, à sortir de la situation dans laquelle vous êtes et à dire tout simplement, eh bien moi j'en ai marre de cette situation. Peut-être que vous êtes responsable en partie, peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes absolument pas responsable parce que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive, mais de dire moi je veux sortir de cette situation, je veux sortir de cet exil et je veux rentrer dans cette année du jubilé. Cette année du jubilé qui est une année de bénédiction, qui est une année positive. Oh, ce n'est pas une année facile, c'est une année aussi où on prend des coups, mais c'est une année où le Seigneur est présent, où le Seigneur est là, et moi je veux rentrer dans cette année du jubilé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien simplement dans la prière, là vous prenez un temps, vous dites « Oui Seigneur, moi je veux rentrer dans cette année du jubilé ». Et si vous êtes déjà rentré dans le jubilé, réjouissez-vous. Les versets 10 à 11 terminent ainsi. Le prophète Ésaïe dit d'exprimer sa reconnaissance. Le texte, ou en fonction de la traduction, certains disent « je serai très enthousiaste ». D'autres traductions disent « je serai plein de joie ». Ça veut dire que quand on est dans cette année du jubilé, même si c'est loin d'être facile, et même si parfois nous retombons en exil, nous voulons nous rappeler et nous voulons nous souvenir, nous voulons proclamer et dire « Seigneur, eh bien je serai plein de joie ». Je n'ai peut-être pas encore cette joie, mais je veux que ce manteau de joie, je veux que cette huile de joie à nouveau vienne et coule sur ma vie. Et je veux commencer par adopter une attitude positive. Et quand j'adopte une attitude positive, alors la joie du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier ce matin, te dire notre reconnaissance, te dire notre joie. Et Seigneur, comme Ésaïe l'a dit, et je serai plein de joie. Je serai plein d'enthousiasme, je serai plein de reconnaissance. Non pas parce qu'il y a des choses difficiles, mais parce que, Seigneur, il y a cette année du jubilé qui a été inaugurée en Jésus. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous ne sommes pas dans ce temps où tu nous juges, où tu nous regardes de travers, où tu nous condamnes, parce que nous avons mal fait, nous avons mal agi. Tu n'es pas ce Dieu-là, Seigneur. Tu es ce Dieu qui nous accueille, ce Dieu qui nous relève, ce Dieu qui vient libérer celui qui est opprimé, qui vient consoler celle qui est triste, qui vient aider ce jeune homme, cette jeune fille, cette jeune femme qui a vécu des événements difficiles, qui peut-être est passé par le divorce, qui peut-être, Seigneur, se retrouve aujourd'hui sans travail. Tu es celui, Seigneur, qui pose ton regard, qui tend ta main et qui dit, eh bien, je veux te donner cette huile de joie, je veux déposer ce manteau de joie sur ta vie. J'aimerais te prier pour mes frères et sœurs qui sont là, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Et je prie ce matin que celui qui a besoin de cette huile de joie reçoive à nouveau cette huile de joie. Que celui, Seigneur, qui se trouve aussi en exil dans un domaine de sa vie, quel qu'il soit, puisse rentrer dans cette année du jubilé. Et puisse simplement te dire merci, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui me le donnes et je le reçois simplement. Et d'amour, celle qui est dedans, eh bien, manifeste de la reconnaissance et encore plus d'amour pour qui tu es et pour ce jubilé qui est là. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Merci.